bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, Emmanuel Macron ouvre le débat sur la politique migratoire. Rencontre avec les parlementaires ce soir. Débat à l'Assemblée à la fin du mois et rapport attendu sur le fonctionnement de l'aide médicale d'État. C'est un sujet sensible au sein même de la majorité. On va voir ça, Agnès, après les autres titres.
Deux candidats anti-système, dont l'un en prison, affirme être qualifié pour le second tour de la présidentielle en Tunisie. La forte hausse des cours du pétrole ce matin après les attaques en Arabie Saoudite. Le début des évaluations pour les élèves de CP et CE1. La mode du vélo cargo. Et puis il a joué Richard III et Don Juan, Cyrano de Bergerac et Scapin. Philippe Torreton se glisse dans la peau de Galilée. C'est à la Scala à Paris.
Les invités de France Inter ce matin, 7h50, Léa.
Protection du mode de vie européen, c'est donc le nouveau nom du portefeuille de la Commission européenne chargée des migrations. Un intitulé qui fait polémique. On lui reproche de reprendre les mots de l'extrême droite. Elle a conduit la liste La République en marche aux dernières européennes. Est-elle choquée par cet intitulé ou pas ? Nathalie Loiseau sera avec moi à 7h50.
A tout à l'heure, Léa. À 8h20, dans le grand entretien de la matinale, un invité exceptionnel aujourd'hui, le lanceur d'alerte Edward Snowden. Il publie aux éditions du Seuil ses mémoires. Déjà, elle s'intitule Mémoire vive. Vos questions 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
France Inter. C'est une rentrée qui n'en finit pas. Après le séminaire gouvernemental le 29 août dernier, voici la déclinaison parlementaire. Députés et sénateurs de La République En Marche et du Modem sont conviés ce soir à une réception dans les jardins d'un hôtel particulier du 7e arrondissement pour un échange informel sur les sujets sensibles de cette rentrée. Une initiative du ministre des Relations avec le Parlement en présence du Premier ministre et même, si le rendez-vous n'est figure pas à l'agenda officiel du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui devrait venir lui-même fixer les priorités. Et parmi elles, l'immigration. Le chef de l'État entend reprendre le contrôle au risque de froisser une partie de sa majorité. Cécilia Arbonin.
Pour de nombreux convives, c'est un cocktail dînatoire et convivial pour lancer joyeusement l'acte 2 du mandat Macron.
C'est un rendez-vous où effectivement on va avoir du plaisir à se retrouver. On a eu une année difficile.
Bruno Fuchs, député Modem du Haut-Rhin.
C'est pas l'endroit où on peut interpeller le président de la République sur un sujet et en débattre. C'est intéressant de voir comment il pense, comment il voit, comment il imagine les choses à venir. Il y a sur l'ensemble des grands sujets une majorité toujours forte pour soutenir les orientations du gouvernement.
Attention, c'est une rentrée périlleuse, prévient un député de La République En Marche qui préfère rester anonyme. On va voir si nous sommes toujours raccord avec le président sur la réforme des retraites, poursuit-il. Il n'y aura pas de surprise, on sera avec lui, assure cet élu trentenaire. Mais sur l'immigration, ça risque de coincer. Ce marcheur attend des précisions sur le droit d'asile, l'efficacité des titres de séjour et surtout, il s'inquiète sur la question des quotas et sur l'AME, l'aide médicale aux étrangers en situation irrégulière. Deux points sensibles, alerte ce parlementaire, qui ne font pas l'unanimité dans nos rangs.
L'AME, précisément, un dispositif régulièrement brocardé par la droite et l'extrême droite. La semaine dernière, la porte-parole du gouvernement a assuré vouloir conserver cette aide, mais dit vouloir en maîtriser le coût. Un rapport sur le fonctionnement de l'AME a justement été commandé pour l'automne. Alors, dans quel but ? Élément de réponse avec Rémi Brancato.
Pas question de remettre en cause l'existence de l'aide médicale d'État gratuite destinée aux personnes sans papier qui gagnent moins de 746 € par mois. Le gouvernement s'y dit attaché. Il a pourtant demander un rapport sur son coût et son fonctionnement à l'IGAS et à l'IGF, les inspections générales des affaires sociales et des finances. Nathalie Goudard de l'ONG Médecins du Monde a été auditionnée et selon elle, les questions portaient plutôt sur la manière de réduire l'accès à l'AME.
Les différentes options sur la table qui nous ont été présentées sont soit l'introduction d'un ticket modérateur, c'est-à-dire une contribution financière à chaque consultation, c'est-à-dire que la personne devra payer pour avoir accès aux soins, ou alors une réduction du panier de soins, c'est-à-dire moins de soins couverts ou encore un contrôle administratif des personnes soignées. Toutes ces options seraient de nature à mettre en danger la santé des personnes.
Alors faudra-t-il payer pour accéder aux soins ? La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'y était fermement opposée. C'était devant les députés il y a 2 ans.
Quand on met un droit de timbre sur l'AME, de facto, les personnes ne vont pas se soigner. Nous les voyons arriver en bien plus mauvais état et elles coûtent beaucoup plus cher à nos hôpitaux publics. C'est un droit humanitaire. J'y suis très attachée, je pense, comme l'ensemble de nos concitoyens. citoyens.
Et sa position n'a pas changé, nous indique aujourd'hui son cabinet qui attend le rapport de l'IGAS pour commenter les propositions.
Et enfin, un débat sur l'immigration sans vote est prévu le 30 septembre à l'Assemblée et le 2 octobre au Sénat. Sur le dossier sensible des retraites, cette fois après la grève de vendredi dernier à la RATP, ce sont les professions libérales qui manifestent aujourd'hui. Les avocats, mais aussi les médecins, les pilotes, hôtesses et stewards. Un rassemblement est prévu à 13h, place de l'Opéra à Paris. Et puis les agents du Trésor public sont également appelés à cesser le travail aujourd'hui pour protester contre les 5800 suppressions de postes annoncées au début du mois.
Il est 7h05, Agnès, direction la Tunisie avec le premier tour de l'élection présidentielle qui sonne comme un coup de tonnerre.
Les résultats officiels ne seront annoncés que demain, mais deux sondages d'instituts privés donnent en tête Nabil Karaoui, un publicitaire actuellement en prison, et un universitaire sans parti politique, Kais Saied, le candidat du parti au pouvoir, et Narda n'arriverait qu'en troisième position, ce qu'il conteste. Alors si la présence au second tour d'un candidat en prison se confirmait, ce serait une première. Reportage hier soir au QG de Nabil Karaoui à Tunis, de Maureen Mercier.
Des tentes dressées pour l'occasion, une petite foule qui célèbre devant le quartier général du parti de l'homme d'affaires, patron de télévision, celui que l'on surnomme ici souvent le Berlusconi tunisien. Pour Samira Chawashi, représentante légale de Nabil Karaoui pour la campagne présidentielle, il n'y a aucun doute.
On l'appelle déjà monsieur le président.
Nabil Karaoui est derrière les barreaux depuis près d'un mois, sous le coup d'une enquête pour blanchiment et fraude fiscale, emprisonné et en position de devenir président. Personne ne sait comment gérer cette affaire, d'autant plus que 8 ans après sa révolution, le pays n'a toujours pas réussi à se doter d'une cour constitutionnelle. La justice doit statuer en début de semaine pour la 3e fois sur sa demande de libération. Les 2 premières ont été refusées. Pour le porte-parole du candidat, Abdelaziz Belkodja, ce sera différent cette fois.
Nabil va être libéré. On sait très bien que Nabil Karaoui a été mis en prison à cause du chef de gouvernement. Alors aujourd'hui, ça c'est terminé, hein. Le chef de gouvernement n'est pas parmi les 2 premiers. On est dans une situation qui est beaucoup plus détendue, d'accord, politiquement et judiciairement.
Pour l'heure, rien n'est joué. Les résultats officiels préliminaires ne seront annoncés que demain. Tunis, Maureen Mercier, France Inter.
Et le second tour de cette élection présidentielle en Tunisie doit se tenir d'ici le 23 octobre. Et puis en Algérie, le président par intérim a fixé la date de l'élection présidentielle. Ce sera le 12 décembre prochain. Les cours du pétrole en hausse de 10% ce matin à l'ouverture des bourses asiatiques. Conséquence prévisible de la réduction de moitié de la production annoncée par l'Arabie Saoudite après la destruction d'une partie des infrastructures pétrolières du pays. Une attaque revendiquée par les rebelles yéménites Houthis soutenus par l'Iran. Nous connaissons le coupable et nous sommes prêts à agir, a tweeté ce matin Donald Trump. Nous y reviendrons dans le journal de 8h.
Il est 7h08, 15 jours après la rentrée. Agnès, voici venu le temps des évaluations pour les CP et CE1.
Trop tôt, trop difficile, estimé l'an dernier bon nombre d'enseignants. Certains avaient même refusé de se plier à cette directive du ministère, censé donner une idée du niveau des élèves en français et en maths. Les tests ont depuis été revus et semblent, Sonia Princé, être mieux adaptés.
Les cahiers d'évaluation viennent juste d'arriver dans les écoles. Le ministère a tenu compte des critiques de l'an dernier et a amélioré certains points. C'est le sentiment d'Isabelle, professeure dans une classe de CP à Dieppe.
C'est quand même plus court que l'année dernière, donc comme on avait en particulier vraiment critiqué la durée de certains exercices, il y avait plusieurs pages pour le même exercice, donc visiblement ça a été entendu. Donc il n'y a plus qu'un seul cahier.
Mais sur le fond, les réticences demeurent, les évaluations ne sont pas adaptées à des petits. Isabelle, qui enseigne en éducation prioritaire, redoute que ses élèves soient en difficulté devant certains exercices.
Ce qu'on pourrait appeler des pièges pour les enfants, il faut qu'ils différencient, oui, on est en CP, hein. On va leur dire coude et il y a sur l'image il y a aussi coude et il y a machine à coudre. Donc il faut qu'ils entendent bien entre coudre et coude. Et on sait très bien qu'à cet âge-là, les enfants, à l'oral, ils n'ont pas cette finesse-là de langage. Donc s'il faut adapter le temps, on rallongera. Si les consignes sont pas explicites, on les expliquera. Enfin, moi je suis pas en classe pour maltraiter mes élèves. Enfin, ils arrivent de la maternelle. De ce point de vue-là, on trouve que ça n'en tient pas compte du tout.
Les professeurs ont l'habitude d'évaluer leurs élèves en début d'année par rapport à ce qu'ils ont appris à la maternelle. Mais ce que les syndicats dénoncent, c'est l'importance donnée par le ministère à ces évaluations standardisées et l'usage politique qu'il en fait.
Et puis aujourd'hui et demain, ce sont plus de 11 000 élèves qui sont convoqués pour la session de rattrapage du brevet. L'avenir de la compagnie Aigle Azur et de ses 1150 salariés avec l'examen aujourd'hui par le tribunal de commerce d'Evry des dossiers de repreneurs, avec deux projets qui tiennent la corde selon le gouvernement. L'un émanant d'Air France et du groupe Debreuil et l'autre d'un transporteur étranger. Plus de détails dans le journal de 7h30. C'est un autre moyen de transport, le vélo cargo, très en vogue dans les pays du Nord. Il gagne peu à peu la France. Ce sont de grandes bicyclettes à deux ou trois roues avec une caisse à l'avant qui permettent de transporter deux enfants ou des marchandises. Yann Gallic a rencontré un plombier parisien adepte du vélo cargo. Reportage.
Cela fait maintenant 5 ans qu'Elian Aluin sillonne les rues de la capitale au guidon de son vélo cargo.
Entre le guidon et la roue avant, il y a une caisse qui permet de mettre tout mon outillage pour la journée.
Elian Aluin est plombier. Il parcourt chaque jour une cinquantaine de kilomètres avec son vélo cargo électrique. Un gain de temps considérable, dit-il, surtout dans une ville très embouteillée comme Paris.
Les clients sont même assez agréablement surpris de voir que j'arrive en avance. Normalement, un plombier,
il arrive souvent en retard.
Exactement, ouais. C'est génial. C'est un luxe d'avoir un engin pareil parce qu'on va être beaucoup plus fluide dans la circulation. On va pouvoir se garer aussi beaucoup plus facilement. Le stationnement aussi, c'est une horreur à Paris. Beaucoup d'artisans ne viennent plus à Paris parce que justement, ont du mal à se garer.
De plus en plus de particuliers choisissent également ce mode de déplacement pour les petits trajets quotidiens. Gérald Dupère est responsable d'un magasin spécialisé dans les bicyclettes hollandaises. Cette année, il a déjà vendu 4 fois plus de vélos cargo qu'en 2018.
On a vraiment 90 à 95% de clients type famille pour transporter les enfants et ensuite aller au travail avec le vélo. La plupart de nos clients abandonnent la voiture sur Paris Intramuros en moins d'une année. Moi-même, ça fait un an et demi que je roule en cargo. Je fais mes courses, je dépose mes enfants à l'école, à la crèche, je fais tout en cargo.
Un marché en plein essor pour des vélos qui restent relativement chers. Un cargo coûte en moyenne entre 2 et 4 000 euros.
Un rôle sur mesure enfin pour Philippe Torreton qui interprète Galilée qui durant toute sa vie a dû se battre contre l'Église, notamment pour défendre ses recherches. Galilée donc dans une nouvelle mise en scène signée Claude Ascavisky qui donne une portée très politique à l'œuvre de Galilée. Stéphane Capron.
De cette pièce, on peut en faire un biopic, une épopée. Mais Claudia Stavisky est partie de l'essence même du texte de Brecht, qui n'a cessé de le retravailler en fonction des événements de son époque. Galilée est un scientifique en résistance, un rôle sur mesure pour Philippe Torreton.
Que l'on soit comédien politisé ou pas, de toute façon, si on joue Galilée de Brecht, on est dans la politique. Mais avec un grand P et un grand T du théâtre. Pour moi, c'est un des grands chefs-d'œuvre du XXe siècle, cette pièce.
Galilée se bat contre l'Église du XVIIe qui refuse de voir la vérité. C'était l'un des premiers scientifiques rebelles de l'histoire.
Galilée est un lanceur d'alerte. Je me suis dit, mais aujourd'hui, il serait sûrement climatologue, Galilée. Et il doit convaincre une sorte d'orthodoxie consumériste qui est aussi bête et aussi violente que ce que montre Brecht dans la pièce avec l'Église catholique romaine. On est pareil. Je m'inclus dedans. C'est-à-dire que notre mode de vie nous tue. Donc, par le savoir, on est proche de Galilée et on ne fait rien. Donc, on est comme le cardinal inquisiteur. On va dans le mur et on continue. C'est vertigineux.
Philippe Torreton est un formidable chef de troupe dans cette mise en scène éclairante de Claudia Stavisky qui met en valeur les phrases clés de l'œuvre de Brecht.
Philippe Torreton dans Galilée, c'est donc jusqu'au 10 octobre à la Scala de Paris, puis en tournée en France jusqu'en janvier.
Merci Agnès Soubiran.